Alors, Évangile de Jean 7, 8, 9. Oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, on fait une série de prédications sur tout l'Évangile de Jean. Donc là, si j'ai bien compris, les anciens ont dit il faut qu'on accélère. Ils m'ont donné trois chapitres d'un coup. Trois chapitres de l'Évangile de Jean qui n'ont aucun parallèle dans les trois autres évangiles. C'est que dans l'Évangile de Jean qu'on trouve ces chapitres et surtout le contenu de ces chapitres. Qui sont trois chapitres assez différents, dans lesquels il n'est pas aisé de trouver une réelle unité. Voilà, super, merci. J'ai mis ça, cette photo, parce que l'emblème, là, c'est l'emblème de l'apôtre Jean, en fait, hein, qui est représenté par un aigle et par la parole de Dieu. Donc je disais, il n'est pas aisé de trouver une vraie unité dans ces trois chapitres. Je ne sais pas s'il y en a qui les ont lus. Est-ce qu'on peut, je vais faire lever la main de ceux qui les ont lus ou qui ne les ont pas lus. Il y en a un qui l'a lu. Deux, trois, quatre, il y en a quelques-uns. Bon, super. Donc vous allez pouvoir me rectifier si je dis des bêtises. Hein. C'est bien. La réelle unité que j'y ai trouvée, c'est l'insistance sur l'importance de la personne de Jésus et sur la notion de jugement. On va examiner en fait chacun des trois chapitres qui sont quand même très différents les uns des autres. Donc on va commencer par le chapitre 7. J'ai pas la zapette, hein, c'est toi qui tu peux suivre, c'est bon. Donc je vous propose de lire quelques versets dans le chapitre 7. Donc je lis en fait dans la version Tob. Traduction accumulée de la Bible que j'ai trouvée très intéressante pour lire les écrits de l'apôtre Jean. Donc Jean 7, verset 1. Dans la suite, Jésus continua à parcourir la Galilée. Il préférait en effet ne point parcourir la Judée, où les autorités juives cherchaient à le faire périr. Or, c'était bientôt la fête juive des Tentes. Ses frères lui dirent: passe d'ici en Judée afin que tes disciples aussi puissent voir les œuvres que tu fais. On n'agit pas en cachette quand on veut s'affirmer. Puisque tu accomplis de telles œuvres, manifeste-toi au monde. En effet, ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit alors, phrase bizarre, hein, croyez pas en lui, ils lui disent. Bon, je ne reviendrai pas dessus, mais Jésus leur dit alors, mon temps n'est pas encore venu, votre temps à vous est toujours favorable. Le monde ne peut pas vous haïr, tandis que moi, il me hait, parce que je témoigne que ses œuvres sont mauvaises. Montez donc à cette fête, pour ma part, je n'y monterai pas, car mon temps n'est pas encore accompli. Après avoir ainsi parlé, il demeura en Galilée, mais lorsque ses frères furent partis pour la fête, il se mit en route, lui aussi, sans se faire voir et presque secrètement. Alors, tout ce chapitre, on a lu le début, mais tout ce chapitre est intéressant parce qu'en fait, il est rythmé par la géographie et par le temps, la saison. Peut passer à la prochaine. Donc tout ce chapitre se passe en fait pendant la fête des tentes. Alors on appelle ça la fête des tentes ou la fête des cabanes, la fête des tabernacles, tout ça c'est la même chose. Et c'est en fait ce qu'on appelle en hébreu soukkot, la fête des cabanes. Donc c'est intéressant parce que ce chapitre est vraiment rythmé par ça. Dans les versets, on a plusieurs versets. Il nous est dit au verset 2, bientôt la fête juive des tentes. Au verset 11, au cours de la fête. Verset 14, alors qu'on était déjà au milieu de la fête. Et enfin, verset 37, le dernier jour de la fête. Donc c'est vraiment, on a tout le chapitre 7, c'est un chapitre qui dure en fait une semaine, 8 jours, les 8 jours de la fête de Soukhot. Et puis, il est rythmé aussi par une question de timing, j'allais dire. Plusieurs fois, il nous est dit, c'est lui qui le dit ou c'est le commentateur qui le dit, Jean qui le dit, son heure n'est pas encore venue, mon heure n'est pas encore venue. Il le dit au verset 6, il le dit au verset 8, il le dit au verset 30. Qu'est-ce que c'est cette fête ? Elle semble importante puisque Jean, par 4 fois, donc, va insister sur le timing de cette fête. C'est l'une des 3 fêtes majeures de l'Éternel. Vous savez qu'il y a 3 fêtes majeures de l'Éternel qui sont des fêtes de pèlerinage où les Israélites étaient appelés à monter à Jérusalem, non pas seulement à célébrer dans leur ville, leur village, mais depuis Israël et depuis la diaspora même, hein, les Juifs qui vivaient dans d'autres pays étaient appelés pendant ces 3 fêtes, ces 3 saisons de l'année, à monter à Jérusalem pour célébrer. On connaît bien 2 de ces fêtes de l'Éternel. Pessah, qui est devenu dans la tradition chrétienne Pâques. Il y a Shavuot, qui dans sa tradition chrétienne deviendra Pentecôte. Mais pour la 3e fête majeure, Soukhot, la fête des tentes, des cabanes, qui a lieu l'automne, en septembre-octobre, elle est moins connue des chrétiens parce qu'elle n'a pas de correspondance dans la vie de l'Église, alors que les 2 autres ont une correspondance dans la vie de l'Église et dans les événements qui se sont produits, celle-là n'a pas d'écho dans la vie de l'Église. Et pour cause, son temps n'est pas encore venu. C'est le leitmotiv qui revient. C'est pas encore l'heure. C'est pas encore l'heure de Soukhot. Et donc, il viendra un temps où on aura Soukhot. Mais pour le moment, on a Pessah, on a Pâques, on a Pentecôte, mais on n'a pas encore Soukhot. L'heure n'est pas encore venue. Quand Jésus dit « mon heure n'est pas encore venue », qu'est-ce qu'il veut dire ? Les interprètes disent souvent, et à raison, que ça sous-entend qu'il n'est pas encore, c'est pas encore le moment de la crucifixion. Ce n'est pas encore le moment où il doit passer par ce sacrifice expiatoire. Et donc, ce n'est pas encore l'heure de la mort, de la résurrection et de l'ascension. Et c'est vrai. Mais on oublie souvent qu'à la liste correcte, incarnation, prédication de l'Évangile, mort, résurrection, ascension de Jésus, il manque un mot à cette liste. Il manque un mot, c'est l'avènement, le retour, le règne. C'est la venue en gloire pour régner sur la terre. Le prophète Zacharie décrit le plein accomplissement de la fête de Soukhot, la fête des cabanes, vers la fin des temps, à l'avènement du Messie. Dans Zacharie 14, je crois, je ne sais plus si je l'ai noté. Non. Dans Zacharie 14, au verset 16, il nous est dit « Alors, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. » Si vous reprenez le livre du prophète Zacharie, il parle de la fin des temps, des événements, de ce qui doit se produire, etc. Et là, au verset 16, il nous est dit « Alors, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem. » En fait, Zacharie décrit comment, à la fin des temps, on se demande pourquoi, des fois, au vu de l'actualité, toutes les nations en auront ras-le-bol d'Israël et vont se liguer contre Jérusalem, et vont attaquer Jérusalem. Et c'est là où le Messie interviendra, où il va faire que Israël ne sera pas complètement détruit, ce seront les nations, beaucoup dans les nations qui seront détruits. Mais, Zacharie dit, tous ceux qui resteront, il y aura des restes dans toutes les nations qui seront venues contre Jérusalem, et ceux-là monteront chaque année se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer quoi ? La fête des tabernacles. Donc ces 2 fêtes qu'on a, Pâques, Pentecôte, eh bien, auront enfin cette 3e fête, celle des tabernacles. au verset 23, les versets 23 à 36, dans ce même chapitre de l'évangile de Jean, on a un passage qui est prophétique, qui est très intéressant sur le plan prophétique. Il nous est dit que Jésus dit « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, car là où je suis, vous ne pouvez pas venir. » Les autorités juives, dès lors, se disaient entre elles « Mais où faut-il donc qu'il aille pour que nous ne le trouvions pas ? Va-t-il rejoindre ceux qui sont dispersés parmi les Grecs ? Va-t-il enseigner aux Grecs ? Que signifie cette parole qu'il a dite ? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je suis, vous ne pouvez venir. » Alors c'est intéressant quand on lit ce texte à la lumière du contexte de la fête pendant laquelle ça se produit. Jésus leur dit, vous ne pourrez pas me suivre, je vais aller ailleurs et vous ne pourrez pas me trouver. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Et alors les autorités juives disent, mais pourquoi il dit ça? Où est-ce qu'il va aller? Est-ce qu'il va aller à ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui sont hors d'Israël, qui sont dans les autres pays. Vous savez que les Grecs, ça représente les autres nations hein, dans le langage du Nouveau Testament. Et donc, est-ce qu'il va aller prêcher aux Juifs, finalement, qui sont à Damas, aux Juifs qui sont à Smyrne, etc. Et ils vont plus loin. Est-ce qu'il va prêcher aux Grecs? Et là, donc, ça veut dire aux non-Juifs. Et donc, dans ce contexte de Soukhot, de cette fête qui est une fête juive, mais qui deviendra une fête universelle, déjà prophétiquement, sans le savoir, les autorités juives disent, mais est-ce qu'il va aller chez les juifs qui sont en dispersion? Est-ce qu'il va même aller dans les nations? Et en fait, le cœur de ce que partage là cette parole prophétique, c'est vraiment le fait que, effectivement, il y a un appel à ce que toutes les nations puissent célébrer cette fête, puissent reconnaître le roi. Et qu'effectivement, pendant un temps, les Juifs chercheront le Messie, mais ils ne le trouveront pas. Parce qu'il sera chez les Grecs, il est chez nous. Il sera chez les nations, dans les nations. Et je trouve ça intéressant dans ce contexte de voir comment Jean arrive à décrire de façon tellement prophétique à la fois ce qui se vit là sur le moment de l'époque et puis ce qui va se vivre par la suite. Pendant la fête de Soukhot, pendant la fête des cabanes, il y avait diverses actions qui prenaient place à côté de la construction d'une cabane. Hein, je vous en ai mis une petite là, je crois dans les rues de Paris en fait. C'est une cabane qui a été faite. Donc il y avait la construction de cabanes et ces cabanes, on mangeait, on dormait pendant une semaine en dessous. Et on accrochait des fruits de saison. Et c'était une semaine pendant laquelle on agitait aussi tous les jours, selon les règles du Lévitique, on agitait un bouquet de quatre arbres feuillus, quatre fruits. Et le dernier jour de la fête dont il nous est parlé là, on priait pour les pluies. Je vous ai dit que c'était une fête d'automne. C'est une fête d'automne qui a lieu, selon les années, ça bouge un petit peu, en septembre ou octobre. Et donc, on priait pour les pluies. Et dans le contexte du Moyen-Orient, c'était important de prier pour les pluies, qu'à l'automne et à l'hiver, les pluies arrivent. Et dans ce contexte facilement désertique, c'était quelque chose d'important. Et en fait, on joignait le geste à la prière. Le dernier jour de la fête, on vidait toute l'eau qui restait dans les réservoirs de Jérusalem. On n'avait pas tout consommé l'eau, donc on allait la verser, on vidait tous les réservoirs, et depuis le haut du mont du Temple, on faisait couler dans les rues toute l'eau qui ruisselait de partout. Et c'est ce jour-là, dans le texte, il nous est dit que Jésus se lève et qu'il dit « Si quelqu'un a soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Donc c'est vraiment, l'enseignement de Jésus est vraiment lié à cette fête. Il se présente comme celui qui peut abreuver. Vous cherchez à boire, vous demandez à boire, il y a l'eau qui ruisselle partout. Je suis la source pour ceux qui ont soif. Quand je dis qu'on vidait tous les réservoirs, tout ce qui restait d'eau de l'année, c'était un sacré pas de foi quand même. On priait, c'était au début de l'automne, on priait pour la pluie et on disait, mais Seigneur, tu vois, la preuve qu'on a la foi, c'est qu'on vide tous nos réservoirs. On n'a plus rien, on dépend uniquement de toi. Et tous les ans, ça se reproduisait comme ça, on s'attendait vraiment à Dieu pour apporter l'eau. Et Jésus se lève et il dit, je suis l'eau de la vie. Et si vous buvez de cette eau, vous-même, vous deviendrez une source d'eau vive pour votre entourage. À la fin de ce chapitre et à la fin de la fête, on essaie quand même d'arrêter Jésus. On envoie des soldats pour l'arrêter. Et puis ils reviennent bredouilles, ils ne l'arrêtent pas. Et alors on leur dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté ? Et au verset 46, il nous est dit, c'est les soldats qui répondent aux autorités, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et ça, c'est une phrase que je me suis dit moi-même quand j'étais pas encore converti, que je cherchais Dieu dans différents domaines, beaucoup de domaines pas clairs, et puis aussi dans la Bible, et j'ai dit, mais il n'y a que lui à suivre en fait. Jamais personne n'a parlé comme lui. Jamais personne n'a fait ce que lui a fait. Et c'est ce qui m'a convaincu de le suivre. Et là, c'est ce que les soldats répondent. On n'a pas pu l'arrêter. Ses paroles, personne ne parle comme lui. Je trouve ça très, très beau, très joli et très fort. On a fini avec le chapitre 7, donc on passe au chapitre 8. Chapitre 8 qui est divisé en deux parties. Je vous propose qu'on lise un petit passage. Mais avant de le lire, je situe un peu le contexte. Au début du chapitre 8, la première partie, elle est introduite par l'insertion de l'épisode de la femme adultère. Vous connaissez tous cet épisode de la femme adultère. On présente à Jésus une femme qui a été, on se demande où est l'homme, qui a été prise en flagrant délit d'adultère, parce qu'elle n'a pas été prise en flagrant délit seule, si elle était en flagrant délit. Mais bon, c'est la femme qu'on amène. Pour demander à Jésus, bon, la loi dit qu'elle doit être condamnée, qu'est-ce que toi tu dis ? Et puis, ben, vous vous souvenez, hein, il va dire, d'accord, effectivement, la loi dit ça, donc celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre pour la lapider. Et ben, un par un, ils s'en vont, bien sûr, en commençant par les plus âgés. Et puis les plus jeunes, quand même, à la fin, finissent par partir aussi. Et Jésus dit, moi non plus. Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Et donc il y a cet épisode. Et puis ensuite, le chapitre 8 continue sur un autre sujet. Donc je vous lis dans Jean 8, à partir du verset 12. Jésus, à nouveau, leur adressa la parole. Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Les pharisiens lui dirent alors, tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas recevable. Jésus leur répondit, il est vrai que je me rends témoignage à moi-même, et pourtant mon témoignage est recevable, parce que je sais d'où je viens et où je vais, tandis que vous, vous ne savez ni d'où je viens ni d'où je vais. Vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est conforme à la vérité, parce que je ne suis pas seul, il y a aussi celui qui m'a envoyé. Jésus, en fait, dans le chapitre 8, il va parler de lui-même, on le voit là. Je suis la lumière du monde, je sais d'où je viens. Il va parler de lui-même et il va chercher à élever nos regards plus haut. Beaucoup voyaient en Jésus un guérisseur, quelqu'un qui faisait donc des miracles, qui était un homme extraordinaire. Et Jésus va essayer de leur monter un petit peu le menton vers le haut. Et il va parler de lui et il va se décrire comme étant la lumière. En se décrivant comme étant la lumière, ça renvoie bien sûr au temps de la création, où Dieu dit au début, tout début, que la lumière soit et la lumière fut. Et cette lumière dont il est parlé, ce n'est pas la lumière du soleil, parce que quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, la lumière apparaît, la lumière existe, mais il n'y a pas encore le soleil, il n'y a pas encore les étoiles. Cette lumière, c'est une autre lumière, d'une autre nature. Et Jésus va dire, je suis la lumière. Donc ça renvoie à cette création, cette lumière qui émane du Père et qui va présider et éclairer toute la création. Et qui, de façon plus proche de nous, cette lumière nous invite, nous, chacun d'entre nous, à la suivre. Et il nous dit qu'en marchant à sa suite, on ne marchera jamais dans les ténèbres. Cette lumière, elle fait aussi écho au prologue de l'évangile de Jean. Déjà Jean, tout au début de son évangile, quand on l'a lu, il fait appel à cette lumière en disant qu'elle est venue dans le monde, cette lumière. C'est un thème important chez Jean, le thème de la lumière. Après, Jésus va aller plus loin, donc on l'a lu, « Vous jugez de façon purement humaine, moi je ne juge personne. » S'il m'arrive de juger, mon jugement est conforme à la vérité, parce que je ne suis pas seul, il y a aussi celui qui m'a envoyé. En fait, dans Jean 5, qu'on avait déjà lu, il nous était dit, le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. Et le Fils dit, moi je ne juge pas, mais si je juge, c'est avec mon Père. Il se renvoie la balle du jugement. Jésus va aller un peu plus loin, après avoir dit « Je suis la lumière », il va dire « Vous, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. » Waouh, quelle parole. Vous êtes dans ce monde, moi je ne suis pas... Vous êtes de ce monde, pardon, moi je ne suis pas de ce monde. C'est le verset 23. Tu l'as... Oui, merci. Au verset 24, « Si en effet vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Jésus emploie des formules fortes là pour parler de lui, des formules qui sont provocatrices quelque part. « Je suis d'en haut. Je suis la lumière. » Quelque part, vous, donc, vous êtes les ténèbres ou dans les ténèbres. Vous, vous êtes d'en bas. Et au verset 24, on vient de le lire, « Si en effet vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Il emploie cette formule un peu énigmatique qui, j'allais dire en bon français, en bon grec, ne colle pas, mais qui peut rappeler le fameux « je suis » de la révélation au Sinaï et qui exprime la condition divine du Messie. Ensuite, au verset 28, il dit « Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Je dis ce que le Père m'a enseigné. » Donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? Là encore, les interprètes souvent disent « C'est quand il aura été élevé sur la croix. » Jésus lui-même dira, « Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et c'est juste. Mais lorsque vous aurez élevé, vous connaîtrez que je suis. Or, après la croix, beaucoup du peuple d'Israël n'ont pas reconnu que je suis. Et donc, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, ça fait aussi écho à ce fameux « Béni soit celui qui vient au Seigneur » qui va être prononcé quand le Seigneur va revenir. Quand vous m'élèverez, vous reconnaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Au verset 56, Jésus continue à parler de lui. Il parle « Abraham, votre père, a exulté à la pensée de voir mon jour. Et il l'a vu et il a été transporté de joie. » Jésus choque ses auditeurs là. Abraham a exulté, il a vu mon jour. Et on va lui dire, mais t'as pas 50 ans et toi tu connais Abraham, tu étais là avant Abraham. Il a vu mon jour. C'est quoi le jour du Messie? Il a vu mon jour. C'est le jour de l'Éternel. C'est le jour de la venue en gloire. C'est le jour du retour du Seigneur. Et la deuxième partie du chapitre va continuer dans la même ligne, mais elle va devenir encore plus polémique, justement, par rapport notamment à Abraham. Cette deuxième partie du chapitre, elle commence au verset 31. Tu peux passer, donc c'est bon, merci. Au verset 31, il nous est dit, Jésus donc dit à ces Juifs qui avaient cru en lui. Donc cette partie du chapitre nous dit que Jésus va parler aux gens qui croient en lui. Quand vous lisez la suite, vous en prenez pour votre grade, pour notre grade, pour leur grade, j'allais dire. Certes, vous êtes les descendants, la descendance d'Abraham, je le sais, il va leur dire au verset 31. Et eux vont répondre, nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Et Jésus va leur dire, vous êtes bien de votre Père, le diable. Waouh! Le début du chapitre, nous dit, enfin de cette partie, dit, il parle à ceux qui croient en lui et il leur dit encore, finalement, votre Père, c'est le diable. Impressionnant quand même. Il pose des questions. Alors, je n'ai pas forcément beaucoup de réponses à apporter à ces phrases choquantes. Pour moi, ça m'évoque quand Jésus se tourne vers Pierre. Pierre qui est pas n'importe qui est celui qui a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus lui a répondu « Tu fais bien de dire ça, c'est l'Esprit qui t'a révélé ça, c'est mon Père qui est dans les cieux ». Et à un autre moment, Jésus va dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Je pense que Jésus voulait amener ceux qui croyaient en lui. Il y a d'autres versets qui nous disent, il savait ce qu'il y avait dans l'homme, en fait. Et il savait que beaucoup croyaient en lui à cause des miracles, à cause de ci, à cause de ça. Mais qu'il n'avait pas saisi le cœur encore des choses. Et Jésus, là, veut aller au cœur des choses, il veut aller en profondeur. Il s'élève aux yeux des hommes en se décrivant lui-même, en se recommandant d'une certaine façon de lui-même, mais en même temps, il veut amener justement ses auditeurs à aller plus loin. Cette façon de parler de Jésus qui peut être choquante, d'appeler ses auditeurs des fils du diable finalement, ou d'appeler Pierre Satan, ça mérite quelques explications. Et une des explications, c'est que c'est typique des discussions, des disputations entre pharisiens. Quand on lit les sources extra-bibliques, notamment sur les pharisiens, dans le Talmud, les pharisiens qui sont les rédacteurs du Talmud, il y a plusieurs types de pharisiens, en fait. Il y a au moins 7 types de pharisiens. Et alors, dans les discussions rabbiniques, ils passent leur temps à se disputer et à se contredire les uns les autres et à s'affubler de noms d'oiseaux comme cela. Donc c'est typique un petit peu de cette tradition aussi de parler un petit peu comme ça et d'aller jusqu'à est-ce qu'il faut prendre au pied de la lettre, est-ce que Jésus pensait vraiment que ses auditeurs juifs étaient des fils du diable? Je ne pense pas que ce soit des mots qu'il faut prendre à la lettre. L'Église, dans l'histoire, l'a pris un peu à la lettre et a fait beaucoup de choses mauvaises avec les juifs dans l'histoire de l'Église. Ce n'est pas des choses qu'ils font, c'est culturel. Et Jésus finit ce chapitre en disant, j'honore mon Père, mais vous, vous me déshonorez. Et le but de Jésus, c'était vraiment de révéler qui il était, avec des mots qui peut-être étaient difficiles à entendre pour eux. Et on va finir le dernier chapitre, on arrive au chapitre 9. Je vous ai dit une grosse bêtise tout à l'heure, c'est dans le chapitre 9 qu'il y a la femme adultère. Désolé, c'est dans ce chapitre qu'il y a l'histoire de la femme adultère. Non, c'est dans l'autre ? C'est dans le 8. Ben alors c'est en faisant mes notes que je me suis bien mélangé, voilà. Désolé, c'est la fièvre. Dans le chapitre 9, en fait, le chapitre tourne autour de la guérison de l'aveugle-né. Il y a un aveugle-né, on ne sait pas, ses disciples disent, est-ce que c'est à cause de ses parents, est-ce que c'est à cause de ses propres péchés ? Difficile que ce soit à cause de ses propres péchés, puisqu'il est né aveugle. Donc à moins qu'il ait péché avant d'être né, mais alors je ne sais pas comment on fait ça. Et puis Jésus va dire, c'est pour la gloire de Dieu, il va le guérir, et puis il y a toute une discussion, et tout le chapitre 9, en fait, est autour de ça. Et l'objectif du chapitre 9, c'est de nouveau d'élever Jésus et de nous montrer qui est Jésus. On peut lire à partir du verset 30, « L'homme leur répondit, c'est bien là, en effet, ce qui est étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est. » Toujours la question de « mais d'où est-ce qu'il vient ?» Nous, on croit qu'il vient de Galilée, mais il vient de bien plus haut que ça. Alors que lui, il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si un homme est pieux et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils ripostèrent. Tu n'es que péché depuis ta naissance et tu viens nous faire la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Ce chapitre 9 donc tourne tout entier autour de la guérison de l'aveugle de naissance. Jésus fait de la boue, on s'en souvient, avec de la poussière, avec sa salive. Il applique ça sur ses yeux et il lui demande d'aller se laver lui-même à la piscine de Siloé. S'en suivent donc des polémiques sur le moment de la guérison, parce que Jésus fait cette guérison-là pendant le sabbat, et sur l'identité de celui qui a opéré la guérison. Mais ça va nous amener de nouveau, comme je l'ai dit, à pointer sur l'origine de Jésus. Vous ne savez pas d'où il est. Et c'est la question qui nous est posée aussi à nous, à l'humanité en tout cas. D'où considère-t-on qu'est Jésus ? Et la conclusion du chapitre nous renvoie aussi à la question de l'humilité et de l'introspection nécessaire. Elle renvoie également à la façon dont Jésus à régler leur compte aux hommes qui l'accusaient, voulaient condamner la femme adultère, un petit peu comme avant. Jésus va dire ailleurs, dans Luc, chapitre 6, verset 42, « Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Et donc, c'est un bon résumé de la façon dont dans les trois chapitres, on a un petit peu cette notion de jugement, que le jugement est à Dieu, que le jugement est selon la justice de Dieu, et que ce n'est pas à nous de juger. Nous ne sommes pas appelés à juger, nous sommes appelés à aimer. Le jugement est à Dieu. Quand on dit « nous ne sommes pas appelés à juger », ça ne veut pas dire qu'on n'est pas appelé à juger les idées, les concepts, les théories. Si, ça, on peut juger une théorie. Mais l'être humain qui est en face de nous, on est appelé à l'aimer. Dieu est juge. C'est Dieu qui sait les motivations, les tenants, les aboutissants de toute chose. Je conclurai donc avec simplement ces trois points, je pense, dans ces trois chapitres qui, vous avez vu, sont quand même assez différents. Donc créer une unité, c'était un peu compliqué. La centralité de Jésus et de son origine divine dans le Père, ça c'est le message que Jésus veut faire passer. L'importance de ne pas juger notre prochain, car Dieu seul a un juste jugement, Notre rôle n'est pas de juger, mais d'aimer. Et notre besoin de porter notre regard vers celui qui vient, de l'attendre, de hâter sa venue et de nous attacher à l'espérance de son avènement qui est encore à venir. Et comme disent les Juifs dans leur liturgie toutes les semaines, que ce soit bientôt et de nos jours. J'aime cette expression qu'on entend souvent à la synagogue, bientôt et de nos jours. Ça veut dire ça y est, c'est maintenant. Et ça fait 2000 ans que c'est maintenant qu'on attend cet avènement. Voilà, je voulais vous partager sur ces trois chapitres de Jean. Merci.